Le MAG de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO.
Bonjour, bienvenue à tous. Il est 8h passé de 2 minutes et nous sommes en compagnie de notre grand invité du jour, Emanuele Dubini. Comme on l'entend, eh bien, ça sonne un petit peu italien, mais il a d'autres origines. On va découvrir tout ça avec eux. C'est le patron de DEA Capital Real Estate. Et pour découvrir son portrait, son parcours, je suis en compagnie de Fabienne Lissac. Bonjour Fabienne.
Bonjour Fabrice, quel plaisir de vous retrouver en pleine forme.
Oui, ça va. C'est 25 mars, le printemps est là, bientôt le week-end. Et surtout un invité exceptionnel à nouveau, qu'on va découvrir à la tête d'une sacrée boutique, hein, même un peu plus gros que ça.
Effectivement, je l'ai croisé cette semaine lors de la présentation d'une magnifique réalisation immobilière à Bobigny. On va en parler tout à l'heure. On a entendu dans la première heure d'ailleurs un petit son du directeur des programmes de GA Smart Building, auteur de cette réalisation. Et puis, en passant dans cette assemblée, il y avait un homme avec un beau costume rayé à l'italienne. Il a attiré mon regard, ce petit accent chantant. Je voulais que tout le monde en profite. Mais quand je dis que vous êtes italien, vous êtes vraiment de l'Europe du Sud, vous disiez. Quelles sont vos origines quand vous êtes à Paris comme ça depuis des années? Pour vous, c'est déjà l'Europe du Nord alors?
Bah oui, c'est l'Europe en fait. Donc, avec vous et avec Fabrice, le fait d'avoir donc moitié italien, moitié espagnol, les enfants étudiaient en Angleterre et nous on habite Paris, donc en fait, c'est l'Europe. Mmh. C'est l'Europe aujourd'hui, donc soit au nord, donc Paris c'est au nord, soit dans les villes plus soleillées, etc. Mais quand même, ça reste l'Europe. Donc, c'est des bons moments. Et en France, depuis presque 10 ans, en fait. Donc, Fabienne, on s'est connus, ça fait quelques petits moments, sur un actif, en fait, qu'on a bien travaillé depuis 15 mois, 18 mois, avec beaucoup de passion.
Irigo, ça s'appelle. Et j'ai découvert comme ça, vous avez investi 50 millions. Formidable, ce groupe DEA Capital qui saupoudre 50 millions par-ci, par-là, parce que c'est 25 milliards sous gestion, la société DEA Capital dans laquelle vous travaillez. On y viendra un petit peu après, mais je voudrais revenir sur vous. On ne vous connaît pas encore aussi bien que cela. Et c'est intéressant parce que quand on écoute Queen, on est nombreux à adorer cette musique de Freddie Mercury. Et puis chacun met ses fantasmes, ses désirs. Et vous, vous disiez, pour moi, ça symbolise la voile. C'est ça quand je fais de la voile. Vous pouvez nous raconter votre passion un petit peu?
Oui, avec grand plaisir. Écoutez, Fabienne, je pense que pour moi, la voile, ça représente cet sens de liberté, de force, de puissance, de respect. Beaucoup de respect. En fait, la mer, ça peut être très violente, très dure, très rough. Et je pense un peu que... Mais quand même, il faut travailler la mer, il faut rester dans une zone de non-confort et amener tout ça dans un confort, parce qu'autrement, on vive très mal.
Donc, qu'est-ce que vous aimez là-dedans? C'est l'équipe, c'est être en tension physique, ne pas savoir comment gérer ces aléas naturels, cette puissance naturelle?
Mais en fait, je pense que c'est un peu comme le monde d'être entrepreneur. On a des idées, on a une stratégie, on a quelque chose qu'il faut amener jusqu'au bout. Mais finalement, les petits mamans qui font la journée, qui font la nuit, les entrepreneurs, la nuit, ne dorment pas trop. Hein, parce que après, on pense qu'être entrepreneur, c'est tout joli. Oui, bien sûr que si, dans la stratégie. Mais après, il faut passer des moments durs, difficiles, et on est seul, en solitude. Et c'est un peu la mer, je pense. Donc, on a une équipe. Mais après, quand on prend les vagues, là, on est seul. Hein. Et il faut reconduire dans une situation plutôt normale, tranquille, pour avoir les équipes bien, qui arrivent à maîtriser un moment ou des moments différents qui peuvent être complexes. Mais il faut toujours donner cet esprit, ces moments de tranquillité ou pas. Mais en fait, c'est cette coexistence entre l'intempérie et le groupe, l'équipe et toi. Et toi-même?
C'est amusant parce qu'on reçoit avec Fabrice souvent des entrepreneurs. Hein. C'est la mode des startups et tant mieux. Il y a des créations d'entreprises toutes les semaines. Et dans un groupe aussi gros que le vôtre, hein, je disais 25 milliards sous gestion, vous allez nous dire tout à l'heure dans combien de pays vous êtes. Vous êtes un investisseur de l'immobilier important à l'échelle européenne. Et donc le terme entrepreneur, ça existe encore dans des grandes sociétés comme ça où il y a des process, des corporates, du reporting?
Je vous dis ça parce que ça fait quelques petits moments. Donc on était 2018 avec mes actionnaires, qu'en fait ils détient 70% de parts. Ils avaient envie de démarrer une activité à nouveau. Donc très grand, en Italie on est le premier groupe de gestion, et donc de la société de gestion la plus importante, et on avait à peu près 15-20% de parts de marché, donc un numéro important, et ça c'était même en termes de profil de risque, même trop, donc avec moi je fais beaucoup du monde international, donc j'étais avec des Américains, General Electric, et avant ça avec Morgan Stanley, etc. Et moi j'habitais un peu l'Europe. Et donc, je leur ai présenté un projet d'expansion. Et cette expansion, c'est ça le point d'être entrepreneur, donc avec des parts matérielles. Et donc, on a démarré des scratchs. On n'avait même pas les bureaux. Et donc, aujourd'hui, on a des bureaux. Bien sûr, on a des bureaux.
Si vous qui construisez des bureaux, vous n'avez pas de bureaux, ce
donc
serait
là,
un comble.
Oui, mais je vous assure, chère Fabienne, qu'à un moment
donné...
Vous
avez donné, du mal.
À un moment donné, on n'avait rien. Donc, au début, on avait la chance d'avoir un très bon ami qui, en fait, fait de la santé en France. Et il nous avait donné des espaces à moi et deux, trois au début. Après, on a trouvé des bureaux et après, on les a aménagés. Mm-hmm. Et après. Donc, en fait, la France était le premier de pays. L'Espagne, juste après. Donc, en fait, quand on démarre des scratchs, et on n'a pas les bureaux, on n'a rien, on n'est pas connu. Et donc alors c'est ça le fait des queens, non, de la voile, plutôt que d'être entrepreneur. Même avec un groupe de 25 milliards, donc très costaud, on est coté à Milan, on est coté pour d'autres business à Madrid, on est coté à New York. Donc en fait, c'est une boîte, comme vous dites, avec plein de processus, etc. Mais à un moment donné, quand il faut démarrer, on est seul. Donc on se tourne derrière, comme Don Quichotte, mais il n'y a personne derrière. Donc,
si, il avait son fidèle Sancho Panza.
Si, ouais, voilà. Oui. Donc,
On apprend à vous connaître ce matin, Emmanuel Edouini. C'est vrai que vous avez une sacrée expérience derrière vous. Vous nous parlez d'entrepreneuriat. Vous avez toujours été à la tête, avant cette dernière expérience, de grands groupes. Université de Bocconi, donc c'est quand même très, très, très réputé. Hein. C'est comme notre HEC ici national. Vous démarrez, quand on regarde votre profil, vous avez été le patron du développement de Pirelli Real Estate pendant 16 ans, hein, c'est ça, de février 2002 jusqu'à... Enfin, pardon, pendant 4 ans. Et vous êtes resté chez Pirelli. Expliquez-nous, c'est une division qu'on ne connaît pas forcément d'ici, de France. Hein.
Ouais, donc quand j'étais tout jeune en Italie, on ne va pas chez Michelin. Donc en Italie, c'est Pirelli, soit Olivetti, soit, si on aimait bien le business, Fiat. Donc ça, c'était les grandes écoles du
les grands débouchés des grandes écoles, quoi. Ouais.
Hein, donc, en fait, on avait besoin d'apprendre. Et donc, alors là, c'était Pirelli. Bon, c'est parti, Pirelli. Donc, en fait, j'ai fait plein d'industries. Et ça m'a vraiment beaucoup touché parce que l'industrie, ce n'est pas la finance. Donc, dans notre métier, dans le métier de l'immobilier, c'est quand même une classe d'actifs. Et non, quand on est dans l'industrie, on vend des pneus. C'est comme donc il y a vraiment des marges beaucoup plus faibles, il y a beaucoup du monde, il faut faire travailler les équipes d'une forme différente, et là on apprend aussi à gérer les canaux de distribution. Ça veut dire, en fait, j'ai beaucoup appris dans cet monde industriel que j'ai beaucoup appliqué après dans un monde de la finance, parce que c'est pas très différent, c'est pas différent dans la forme de gérer les volumes. C'est-à-dire, si le volume, c'est asset under management, On peut faire du volume d'une forme directe, on peut le faire d'une forme avec des distributeurs. On peut, donc en fait, les marges seront réduites, mais on a plus de volume. Donc en fait, on a plein de formes qu'on peut voir, je pense, très proches à la forme d'être dans l'industrie.
Ma question est plutôt sur, quand on a un beau CV comme ça, une force de travail qu'on sent, vous auriez pu faire finalement d'autres choses, de la pure industrie effectivement, mais vous, très tôt, vous dirigez vers ce monde du real estate, c'est-à-dire de l'immobilier d'entreprise. C'était un choix, c'était une vocation, c'est une passion qui vous a pris?
En fait, c'était Pirelli autour de Milan. Il y avait les usines. Et donc, c'était par hasard que ces usines, il fallait les reconvertir dans quelque chose de différent.
D'accord, il fallait gérer ces actifs finalement qui étaient des usines.
En fait, il n'y avait rien. Ouais. Il n'y avait rien. Et donc, à un moment donné, il y avait un petit équipe, dont moi, de l'industrie qui avait envie de changer, de faire d'autres choses. Et donc, de talent, je ne sais pas si je suis un talent, mais de toute façon, il disait ça.
Bien
et
sûr,
donc, il prend ceux qui avaient du talent. Ils ont dit, alors on redémarre dans un Pirelli immobilier qui, en fait, s'appelait à ce moment Milano Centrale. Et donc, vraiment, on était 45, on n'avait rien. Et au fil de l'eau, cette boîte est devenue la plus grande boîte avec des partenariats, avec JP Morgan, avec Morgan Stanley. C'était le moment de la financiarisation de l'immobilier en Italie.
En fait, quand on entend la marque Pirelli, bien sûr, nous, on pense les pneus, mais c'était déjà la première foncière italienne, en fait.
C'était bien sûr, Fabienne, c'était la première foncière. Et après, on avait bien entendu et appris, en fait, par les Américains, certaines des choses. Après, avec les Américains, on les aime bien ou pas, mais après, il faut s'y changer un peu. Mais cette côté de comprendre comment on peut démarrer des activités de la financiarisation, nous, on était plutôt sur des business qui étaient très différents l'un de l'autre. Donc, si on est des agents, on est des agents de l'immobilier. C'est très important. C'est partie du cycle de la vie de l'immobilier. Si on fait l'investisseur, on est investisseur. Mais il n'y avait pas des vraies boîtes qui représentaient la totalité du business. Et donc Pirelli, à ce moment-là, c'était la première boîte avec les amis américains qui achetaient. On avait les valorisations, on faisait de brokerage, on faisait du non-performing loan, on faisait du AMO, on faisait plein de choses et on était investisseurs. Mmh. Et donc, en fait, c'était une école extraordinaire. Et par hasard, encore une fois, c'était un bon moment parce que c'était le démarrage fin des années 90, début 2000. Donc, on n'avait pas... OK, on sortait d'une crise. On a pas mal vécu des crises. Et donc, et jusqu'à 2007, c'était génial. C'était une croissance. Tout le monde était capable de faire de l'immobilier.
Alors, justement, donc cette expérience Pirelli qui vous a façonné, ça se passe plutôt donc, en Italie, donc de 1990 à 2006. Et ensuite, vous allez chez BNP Real Estate pendant pratiquement 2 ans. Bah, là, je pense que vous avez vécu le début de la crise, du coup. Comment ça s'est passé? Là, vous partez en France. Comment vous étiez attiré? Comment ça se passe? Racontez-nous.
BNP... Donc, c'était le moment d'un rachat d'une banque italienne qui s'appelait BNL. BNP arrive en Italie. Donc, en fait, c'était un peu plus de 2 ans, mais arrive en Italie, achète BNL. Donc, les grands patrons de la banque et de l'immobilier, et ils sont arrivés à Milan et à Rome. Et donc, ils avaient besoin du monde un peu international qui connaissait un peu la France. Moi, je ne connaissais pas tant que ça, mais j'avais étudié beaucoup. Et donc, on s'est bien
trouvé. Vous parliez déjà français, tiens,
Moi, j'avais étudié le français quand j'étais un peu plus aux études. Et donc, les tournures des phrases, pour moi, c'était plutôt simple. Après, d'accord. Bien évidemment, il fallait parler. Ouais. Il fallait lire, il fallait parler, il fallait étudier un peu. Mais...
On sera en peine avec Fabienne de faire toute l'émission en italien, hein, par contre.
J'aimerais bien. Mais...
Moi, ça me fait voyager tout en travaillant. Merci.
Après, c'est vrai, c'est vrai que c'est... On chante, hein, comme vous disiez avant, Fabienne, on chante les Italiens en cet moment un peu... up and down, non, du ton. Et donc là, BNP, j'avais eu la chance de connaître la plupart des amis aujourd'hui qui, en fait, sont les leaders de la France et de chez BNP. Et donc, c'était des moments très agréables, parce que j'avais eu la chance de connaître les grands patrons qui après sont devenus amis, après avec lesquels on travaille ensemble.
Et pourtant, du coup, malgré ce fit, on va dire, hein, avec les grands patrons, ça ne dure pas très longtemps, puisque voilà, c'est un petit peu moins de 2 ans, on va dire. Et puis, finalement, on vous retrouve chez GE, General Electric, toujours bien évidemment dans le real estate, dans l'immobilier d'entreprise. Et là, vous prenez même la tête, vous devenez PDG France et Italie du groupe.
Oui, là, c'était un bon moment. C'était l'investisseur. Moi, je faisais du conseil.
Mais là, ils viennent vous chercher.
Ils venaient vous chercher. Ben. En fait, c'était François Troche et Olivier Piani. Un jour, je rencontre, ils me disent qu'est-ce que tu as à faire dans les prochaines années ? Et j'ai dit écoute, je suis là, je suis chez BNP, je suis bien, c'est rabé, mais peut-être. Et donc, en fait, tout ça, c'était la vraie différence donc, entre être conseil, être investisseur. Donc, les conseils, c'est toujours très important parce que sans conseil, on ne fait rien. Mmh. On n'est pas. Les conseils, c'est important parce qu'ils t'amènent un peu de la main dans certains dossiers, certains marchés, certains esprits, que pas forcément on a quand on est investisseur, et il faut l'apprendre. Et donc, j'avais envie de faire de l'investissement. Et en fait, pour la petite histoire, ma femme, Maria, elle me dit « Mais tu es bien sûr qu'ils ont de l'argent ?» Donc là, on était fin 2007, début 2008. Bien sûr. Si, j'ai plein d'argent. Et donc, de 3 mois, le monde explose.
Ils en avaient plus. Ils en avaient
plus. Donc,
moins.
En fait, l'argent, il y en avait, mais on a changé. C'était plus de equity, c'était plus de financement. Et donc, en fait, j'ai démarré différentes autres choses. Et donc, c'était dans le domaine de financement. Et donc, la vraie différence entre le financement et l'equity, c'est que dans l'equity, on cherche l'upside, donc de faire de la valorisation. Et chez les banquiers, non, pas du tout. Ce qu'on cherche chez les banquiers, c'est d'avoir un floor, donc de ne pas perdre de l'argent. Bon, l'equity aussi, on n'a pas envie de perdre de l'argent. Mais quand même, dans le monde du financement, c'est ce floor qu'il faut toujours chercher. Donc pour moi, GE, c'était les équipes, c'était l'equity, c'était les financements, c'était la culture diversifiée dans différents pays, les États-Unis, l'Europe. Et ça m'a donné beaucoup, ça m'a appris beaucoup, parce que c'était vraiment des moments très sympas, durs. Les Américains peuvent être très brutales. Donc il faut aimer ça. Il faut aimer. Et encore une fois, c'est la voile, c'est les queens, c'est un peu du brutal. Mais toujours honnête intellectuellement.
Vous étiez déjà frotté un petit peu avec JP Morgan, les Américains.
Ouais.
Il y a vraiment une différence au niveau des managements pour ceux qui nous écoutent. On sait qu'il y a pas mal de patrons aussi qui sont sensibles, peut-être confrontés aussi à des managements à l'anglo-saxonne. Qu'est-ce qui est différent ?
En fait, on prend un pitch, c'est-à-dire on prend une présentation. La présentation européenne, on commence par, set les stages.
OK, on met en place la...
On met en place tout pour que, de l'autre côté, ils apprennent qu'est-ce qu'on est en train de présenter. Bon, chez les Américains, c'est exactement l'inverse. Donc, on prend la présentation, on la turn upside down et on commence par la fin. C'est-à-dire, les anglo-saxons n'ont pas envie d'avoir le set du stage parce qu'ils le savent.
D'accord.
Et nous aussi, on le sait. C'est-à-dire, si je suis là pour présenter Irigo, je vous présente Irigo. Et donc, il faut aller tout de suite sur Irigo avec de petits points sur Irigo ou bien sur une histoire.
Straight to the point.
Straight to the point. Parce qu'on n'a pas besoin, en fait, de démontrer qu'on est bon. Non, si tu es là assis, tu es déjà bon. Autrement, tu ne serais pas assis avec les Américains de l'autre côté. Donc, on va se traiter des points. En revanche, quand on est en Europe, donc ce n'est pas que la France, hein, c'est ailleurs. Donc, il faut set the stage, il faut montrer qu'en fait, on est capable de gérer le moment, de gérer l'environnement, de gérer plein d'autres choses, de gérer les cultures. Et donc, à ce moment, on est arrivé à page 7. Donc, page 7, l'Américain, tu l'as perdu. Mais complètement, en fait, il est parti à toute autre chose. Donc, en fait, il pense que tu n'es pas capable de gérer le straight to the point.
D'accord.
Et donc, tu as perdu ce moment très important que si on fait dans l'Europe, aujourd'hui, c'est plus continental, c'est l'Europe, on peut être même presque un peu violent parce qu'on arrive trop
Trop vite.
Trop vite.
On n'en fait pas assez de...
Donc il faut avoir un peu de... Je ne suis pas en train de dire qu'il faut perdre du temps, pas du tout. Je suis en train de dire tout simplement qu'il faut respecter...
Mais dans ce côté pragmatique, ça veut dire que ce qu'ils veulent, c'est arriver plus rapidement quoi, à la partie chiffrée, au business, à la partie investissement.
Donc en fait, c'est le projet. Qu'est-ce que tu es en train de nous vendre dans les bons sens. Donc,
D'ailleurs, dans les mots, ils disent « I buy it hein, », je l'achète ou je l'achète pas.
Ouais, c'est ça. Et donc en fait, c'est dans la première page et demie, il faut créer la chimie, il faut montrer avec peu de mots, peu de phrases, qu'en fait, on a le takeaway, on a ce qu'on a envie de passer. Et le reste, c'est une descente. Et donc, il faut toujours... Le challenge, c'est de plein de buts de cette maman. Et après, on passe... aux chiffres.
Alors, je précise pour nos auditeurs, quand vous citiez Irigo, c'est ce nouveau bâtiment à Bobigny, 16 000 mètres carrés avec vue sur le canal, qui a été présenté par GA Smart Building, votre partenaire français. Votre manière de travailler, il y en a un qui le connaît dans la profession. Fabrice, avec son meilleur accent italien, va retrouver le nom de ce contact avec qui on a parlé cette semaine, parce que c'est un Mac de Limo à l'italienne, Dolce Vita, aujourd'hui. Aujourd'hui, vendredi, on retrouve quelques Italiens qui nous parlent de la France et qui nous parlent de vous. Vous voulez bien, Fabrice, nous présenter
Filippo
par exemple, exactement.
Filippo Reano, c'est le directeur de RX. On l'écoute tout de suite.
Monsieur Filippo Reano, bonjour. Vous êtes le directeur d'RX France qui organise le MIPIM. Merci d'être avec nous. Et vous êtes un ami d'Emanuele Dubini. Alors, ça fait longtemps. Qu'est-ce que vous partagez ensemble?
Ça fait longtemps, oui, parce qu'on s'est connus quand on travaillait tous les deux pour G Real Estate. Donc, on était collègues à l'époque. Emanuele, il était basé à Milan et moi, j'étais basé déjà ici à Paris. Mais on s'était connus donc il y a au moins 12-13 ans. Emmanuel, je dirais, est un homme pressé, est un homme qui a toujours une idée, est un homme qui est bien déterminé. Et c'est quelqu'un en même temps très drôle et très ouvert vers le monde, vers les autres.
Il a pris des responsabilités toujours plus importantes, ça l'a changé?
Je dirais que ça l'a changé dans le sens qu'il a pris un peu plus de gravitas dans ses actes, mais il reste toujours l'ami fidèle et la personne avec laquelle on passe des très bons moments. Toujours curieux, toujours ouvert vers les autres.
Qu'est-ce que vous faites ensemble, sans être indiscret
On se voit régulièrement à Paris, on fait souvent des dîners, on se retrouve souvent autour d'une table. Donc, c'est qui facilite aussi l'interaction. Mais on échange beaucoup sur la France, sur l'Italie, parce qu'on partage évidemment le fait d'être deux Italiens à Paris depuis longtemps, tous les deux. Et après, on a des intérêts communs. On parle beaucoup de politique, on parle un peu de sport, et quelquefois on refait le monde.
Alors, il reste plus italien que vous, il est plus français que vous dans ce mélange?
Je ne sais pas. Je pense que tous les deux, on trouve que l'autre est devenu très français. mais en réalité, on est tous les deux, je dirais, un bon mélange.
Merci infiniment. Grazie mille, monsieur Filippo Reano. Merci. Quelle est la part d'italien ou de français en vous aujourd'hui, après quelques années à Paris?
Bon, on habite la France, on aime la France, on est Paris... Et avec Filippo, lui, en fait, je pense que c'est plus français que moi, mais il est là depuis plus longtemps. Et en fait, on s'est intégré dans cette ville d'une forme complète. Parfois, les étrangers ne s'intègrent pas, tout simplement parce qu'ils restent dans leur monde, soit italien, soit étranger, soit anglais, etc., etc. Et nous, et Filippo, de la même forme, on a toujours choisi de vivre la France, de vivre Paris, de vivre les Français, parce qu'on est en France. Donc, ça, si on commence à rester coincé dans nos habitudes, donc en fait, on reste des étrangers à Paris, et ça ne marche pas. Donc, les Parisiens, après, c'est les cousins des Italiens, c'est différent. Et à la fois, on a des choses en commun. Rien, on s'est très bien trouvé dans cet endroit magnifique.
En tout cas, Filippo Réan est le directeur de REACS qui organise le MIPIM des allées du salon que Fabrice, avec la rédaction de Radio Imo, a sillonné. C'était extrêmement brillant pour ceux qui ont suivi l'antenne. Et alors, ça y est, j'imagine que vous suivez les grands rendez-vous du secteur comme ça. C'est revenu, hein, il y a quand même la pandémie. C'est reparti pour vous ? Quel est votre ressenti ?
Je pense que cette année-là, 2022, le MIPIM, on avait, je pense, c'était 20 000, 22 000 personnes. Donc, il y a vraiment de la puissance. Il y avait du monde. Il y avait du Covid, sans doute, mais quand même. Et donc, on était en train de faire gaffe à ça. Mais OK, on vivait une nouvelle vie. Donc, tout le monde avait envie de voir d'autres, de se parler, de parler de l'immobilier, de parler d'autres choses, d'être à Cannes. Et je pense que c'était le premier moment, en fait, avec tous de l'immobilier, soit les banquiers, soit le conseil, soit les investisseurs. Paris, France, Europe du Sud, Angleterre, Allemagne, il y avait tout le monde. Ce qu'on n'avait pas, c'était japonais plutôt que l'autre côté du monde. Là, c'était pas encore le bon moment. Il y a encore de contraintes là-bas. Mais l'Europe était complète. Donc
les Russes absents aussi. Évidemment.
Ben évidemment absents. Et donc je trouve que c'était un vrai moment de extraordinaire. Et Filippo, il lidère tout ça dans des moments compliqués parce que, en fait, jusqu'à janvier, ils ne savaient même pas. Bien sûr, ils avaient envie de faire le MIPIM. Bien sûr, ils avaient envie de redémarrer ce monde de l'immobilier lié à l'immobilier. Mais à un moment donné, cinquième vague ou pas, on ne savait pas. Et donc, ils ont fait en 2 mois. Un mois et demi, c'est que normalement, ils font en 6, voire plus, mois. Et donc, beaucoup de respect pour Filippo et ses équipes pour avoir mis en place, avec le peu de temps qu'ils avaient, cet moment de l'immobilier très extraordinaire, en fait.
Vous partez en vacances aussi avec vos amis italiens. On parlait tout à l'heure de la voile, mais je crois que pendant l'hiver, c'est plutôt le ski qui vous attire. Ouais. Vous faites ça en groupe,
En groupe, non, mais la voile, c'est plus pour l'été, le printemps, l'été, etc. Et le ski, c'est plutôt l'hiver.
Vous allez où skier,
par exemple ? On est en Suisse, parce qu'en fait, c'est à peu près à 2h30 de Milan. Donc très loin de Paris, mais très proche de Milan. Donc c'est à 2h30 où on a à peu près plein d'amis de Milan et étrangers, mais milanais. Et donc en fait, on est là et on passe des bons moments. Moi, j'avais skié avec beaucoup de compétitions quand j'étais plus jeune. Donc en fait, j'ai plein de problèmes physiques un peu pour ça.
Ça se voit pas. Et puis j'aime bien ce petit ton, tu vois, très très discret, Fabrice. Et en fait, quand il fait du ski, directement c'est les compètes. Quand il fait de l'immobilier, il est directement dans un des leaders européens. Voilà, le style à l'italienne, tout en douceur, ça a du poids, hein, Deva Capital et
c'est
vous-même.
Côté-là de romanticisme, de Bohemian Rhapsody.
Excellent.
Après, finalement, on arrive rock.
Et alors, quand vous avez un petit moment de détente, parce qu'on imagine que des grands dirigeants comme vous ont besoin quand même de se ressourcer, on a parlé du sport, dans l'art, vous êtes plutôt expo, photo, tableau, racontez-nous.
Non, là, c'est plutôt des photos. C'est l'art, c'est Maria,
c'est votre épouse, Maria.
C'est ma femme avec laquelle je partage ma vie. Et donc, c'est elle qui a cette passion énorme pour l'art, pour la cuisine. C'est une forme d'art. Elle est chef, elle fait plein de choses, photographe culinaire. Donc en fait, c'est un métier beaucoup plus rigolo que l'immobilier, je pense. Ou je ne sais pas, quand même. Pour moi, c'est rigolo, l'immobilier. Hein. C'est passionnant.
Quel est le plat préféré, excusez-moi, dès qu'on parle de cuisine italienne, on a envie d'en savoir plus. Hein.
Mais là, c'est les pâtes, mais sauf qu'elle s'est diplômée à l'école du Casse aussi. Donc, en fait, on a mélangé la côté italienne avec la côté française de la technique. La technicité de la cuisine française, c'est très important. Et en revanche, pour l'Italie ou l'Espagne, etc., la cuisine, c'est plutôt la matière première qu'il faut toucher le moins possible. En revanche, en France, la matière première, il faut l'élaborer. C'est la technique. Et donc, on est devenu très amis avec certains des chefs. Et c'est vraiment le côté technique qui... Et donc, c'est encore une fois, si on veut mettre un peu plus sur le monde de l'immobilier, cette côté technique, en fait, il y a des choses, non ? Donc, c'est la photo, c'est un moment. Le plat, c'est un moment, c'est de l'art. Irigo, c'est, on peut voir ça comme un moment d'art, puisqu'on est dans le canal de l'Ourcq. On est dans
du bois,
exactement. Donc on est à la limite entre Pantin et Bobigny. Mm. Mais en fait, on peut toujours voir des choses pareilles dans tout ce qu'on fait. Donc soit dans la cuisine que je fais pas parce que je peux pas, tout simplement parce qu'elle est trop avancée pour moi et trop top. Donc pour moi, pour revenir à votre question, c'est des pâtes. C'est des pâtes.
Bon, très bien. Les pâtes, c'est très bien aussi. Tiens, une question avant de... On écoutera juste après un autre titre que vous avez choisi. On revient sur le secteur immobilier, sur Irigo, que vous avez donc inauguré en début de semaine. Un bâtiment, c'est vrai, moi, c'est la localisation qui m'a interpellé. Bobigny, Pantin, c'est vrai que ce n'est pas des zones qui font rêver. Et pourtant, on a l'impression que ce sont aussi des zones qui sont complètement en train de changer. On le disait, on rappelle pour les auditeurs, Bobigny, c'est la Seine-Saint-Denis, le fameux 9-3, le 93. Des zones, c'est vrai, qui ne sont pas les plus sexy, les plus jolies. Et pourtant, ce sont des bâtiments comme ça, très modernes, qui vont transformer le paysage et peut-être la vie aux alentours.
Je trouve que le monde de l'immobilier, même si le brique, je ne sais pas comment on dit ça, mais dans la construction, on peut faire l'immobilier en France, à Londres, à Düsseldorf. C'est toujours la même coulée de ciment. Mais finalement, l'immobilier, c'est un mélange entre le monde politique, de l'administration publique, de la localisation, des gens qui habitent le quartier, de l'envie de mairie de faire des choses ou pas les faire, de changements en fait dans coin de la ville ou d'un coin de Paris. Alors là, c'est pas Paris, mais le 93. Donc c'était en fait c'est un très joli moment. Entre Romainville, Pantin, Bobigny. Donc, en fait, c'est le croisement. On est à côté du métro. Mais à côté, ça veut dire qu'on tombe dans la bouche du métro, presque. Donc, c'est dans les années, dans les derniers 3 ans, je trouve que la base, il y a vraiment de gros changements. Il faut respecter la côté de l'administration publique qui fait des investissements, qui décide d'améliorer des endroits. Mm-hmm. Et moi, je trouve que cet endroit-là, c'était quelque chose que peut-être, comme vous dites, alors si on est en avenue Montaigne, c'est différent. Oui, mais
évidemment.
C'est pas ça. Faire de l'immobilier, c'est aussi lier la côté de l'immobilier avec l'administration publique, avec les gens, avec la population, avec le conseil. Et on était avec GA et BNP Promotion, les deux, et on a suivi de la main, comme je vous ai dit avant. Les conseils sont très importants. Donc, avec BNP, on se connaît tellement bien. Et donc, on avait fait avec GA aussi. Ils nous ont présenté ce deal. On y croyait. On est parti. Et donc, on a fait... C'était un bon... Et on est content, on est ravis. En plus, comme vous dites, c'est quelque chose nouveau, complètement, terrasse, plein de choses. Et donc, pour avoir...
C'est évident, radio, vous l'avez vu, Fabienne.
Oui, voilà. Même pour la qualité de l'air, il y a des technologies très modernes faites par GA Smart Building pour lier, pour faire les bureaux de demain. Alors, on les a déjà aujourd'hui, des bureaux écologiques, c'est ça l'idée ?
C'est ça. On ne savait rien du futur, mais on n'a pas envie de faire des investissements dans technologie, vieille technologie. Donc en fait, c'est des grands plateaux, c'est des espaces qui puissent loger des employés d'une ferme moderne avec plein de lumières. Moi, j'ai besoin de la lumière. Moi, dans mes bureaux, c'est la lumière. Et la lumière, ça donne plein de choses. Et donc, Irigo, c'est exactement ça. Grande terrasse, les deux côtés, le soleil avec le canal. Et donc ça peut donner aux locataires, aux preneurs, cette forme, cette envie d'y être, parce que en fait, c'est quelque chose de nouveau.
Alors, on a parlé à d'autres amis, à vous, encore une fois, on va écouter Fabrice, qui parle italien couramment, nous présenter cet homme qui vous suit depuis quelques années et pour essayer de percer, qui est Emanuele Dubini. On va essayer de l'écouter. De qui s'agit-il, Fabrice ?
On va écouter un de vos collaborateurs, c'est Pierre Julin, justement, le directeur général de DEA Capital. On l'écoute tout de suite.
Pierre Julin, bonjour. Vous travaillez depuis des années avec Emanuele Dubini. Comment vous le percevez comme manager ?
Écoutez, comme manager, donc c'est quelqu'un qui prend soin de ses équipes, qui est très très proche de ses équipes et qui en même temps donne beaucoup de responsabilités. Il est capable de faire confiance à ses équipes et voilà, leur donner la responsabilité au fil de l'eau pour les impliquer sur tous les deals. Et en même temps, c'est quelqu'un voilà qui va être au quotidien, s'impliquer sur les deals, qui va vouloir aller dans les détails. C'est quelqu'un qui profondément passionné par ce qu'il fait et ça se reflète dans le quotidien et dans sa façon de manager les équipes.
C'est un Italien, donc c'est un management italien que vous pratiquez ?
Pas réellement, alors j'ai jamais pratiqué le management italien et pourtant travaille maintenant avec lui depuis pas mal d'années, mais il a plutôt un background, on va dire anglo-saxon, de par ses différentes expériences. Et le management qu'il pratique est plutôt, enfin en tout cas moi je le reconnais comme un management anglo-saxon, qui justement a véritablement vocation à donner des responsabilités à ses équipes. Il a travaillé longtemps chez GE, j'ai moi-même travaillé chez GE pendant pas mal d'années, et on recense ce style de management. Qui est très très constructif avec un certain nombre de à la fois proches des équipes et en même temps leur donner beaucoup d'espace qui évidemment est assez motivant, assez excitant au quotidien.
En deux mots, qu'est-ce qu'il aime en France à part le travail ?
Alors on sait que les Italiens sont réputés pour la qualité de leur table et il est pourtant lui-même amoureux des tables françaises, de la cuisine française. C'est quelqu'un qui aime bien vivre, quelqu'un de généreux, quelqu'un avec qui on passe toujours de très bons moments, au bureau évidemment, mais aussi en dehors du bureau. Et c'est en tant que grand amateur de cuisine, il y a notamment des amis chefs, grands chefs parisiens, notamment Yannick Aleno qui est un de ses très proches. Mais voilà, donc non, c'est un grand amateur de notre cuisine et c'est tant mieux.
Merci beaucoup pour cet éclairage. Au revoir. Moi, ça me sidère des personnes qui adorent les bonnes tables et qui gardent la ligne, comme Emanuele Dubini. Vous ne pourrez pas quitter ce plateau sans suggérer une bonne adresse à Paris, peut-être d'un bon Italien ou autre. Effectivement, vous, auprès de ces grands cuisiniers, hein, c'est pas n'importe qui, votre ami Yannick Aleno, là aussi, vous inspirez sur à la fois le management, la vision.
Je trouve que être à la tête d'une brigade, c'est du M&A. Hein. C'est du M&A, mais c'est vrai, c'est-à-dire quand on rentre...
M&A, on traduit merger and acquisition, les fusions-acquisitions, c'est vrai, c'est aussi dur. Ah, mais
la fusion des carottes et alors, des poires, ou les poires.
Alors, en fait, on ne sait pas qu'est-ce que c'est une cuisine étoilée quand on est avant et pendant les services. Et pendant les services, nous, quand on est... Alors, on va pas assez souvent, évidemment, mais les fois qu'on est dans les étoilés, on se rend pas compte que derrière, il y a une machine. Il y a une machine derrière, parce qu'il faut que le plat, ça sort toujours au top.
À la minute.
Et ce plat, à la minute, mais pas que à la minute, c'est à la minute. Comme
c'est
vous
au top
exactement,
tous les jours.
Et tous les jours, tous les moments. Donc, en fait, les clients... Alors, ce n'est pas parce que moi, en tant que chef, j'ai passé un plat à quelqu'un et au prochain, je lui dis, écoutez, je suis trompé en fait, je ne sais pas, mais avant, c'était génial le plat. Hein. Donc, le mec ou la fille, il s'en fout. Il a besoin d'avoir toujours cette... Et donc, quand je parle de fusion et acquisition, en fait, on rentre à 6 heures de l'après-midi, on a le service à partir de 8 heures, mais là, on ne rigole pas. Et on sort avec une adrénaline, et j'ai vécu ça parce que mon épouse, elle avait fait ça aussi un peu. Et donc, cette adrénaline, on rentre, c'était à 1h30 du soir, j'étais en bas dans une des cuisines, et il y avait un sous-chef qui était en train de décortiquer un lapin à 1h30 du matin. Donc, en fait, c'est quelque chose d'incroyable. Hein. Et là, c'est encore une fois, si je veux parler de ça, mais aussi de l'immobilier, aussi de plein de choses. Alors, on ne décortique pas les lapins dans l'immobilier. mais c'est tout simplement qu'il faut être engagé. Il faut être engagé, comme les grands chefs sont engagés, les gens qui font de l'immobilier sont engagés, les banquiers sont engagés, les conseils sont engagés. Et les équipes, quand je reprends quelques petites choses de Pierre, qui vient d'évoquer, en fait, moi, en tant que style de management ou de leadership, comme les Américains aiment bien dire, c'est un style plus de donner du pouvoir. Donc, je te donne les clés. C'est à toi de faire avec ces clés ce que tu préfères. Ben, évidemment, on partage. Et moi, ce que j'ai un peu plus du mal, c'est quand on ne partage pas. Et alors, quand on ne partage pas, je veux dire, j'ai donc complètement la liberté. Parce que j'ai dans les clés. Après, il faut les partager parce qu'on est ensemble dans un projet qui peut être dur parfois quand on commence. Et donc, j'aime beaucoup voir. Je pense pas d'être mieux d'autres. Et donc, les équipes ont des idées. Là, on vient de faire trois promesses en trois jours sur deux parcs d'acti en région. On est arrivé à faire ça et je pense franchement parce que on a donné, et moi j'ai donné aux équipes, à Pierre, à Myriam, et, de suivre toute seule. J'étais là, c'est important. Mais toute seule, le déroulement de tout ça, d'arriver au bout avec des complexités. Dans les deals, il y a toujours des complexités. Comme dans la cuisine. Hein. Donc,
vous êtes ouvert à d'autres univers, hein, parce que vous livrez votre plat tous les 5 ans. Là. Irigo, il est parti il y a combien d'années, ce projet-là?
J'espère un peu plus qu'un chaque 5 ans. Autrement, les actionnaires, dont moi, on ne serait pas trop contents. Oui, mais c'est ça. Et donc, pour revenir un peu sur notre stratégie de l'immobilier de 2A, on croit beaucoup dans les bureaux, on reste dans les bureaux et on a ajouté au bureau aussi toute cette côté nouvelle de alternatifs actifs, dont la logistique, les entrepôts, parcs d'activités. On était en train de travailler sur la production média, plein de choses. Et donc, en fait, je pense que il faut évoluer. En revanche, j'entends beaucoup parler des bureaux. À un moment donné, je rappelle bien, comme tous, hein, ça fait 9 mois, les bureaux étaient morts.
Ouais.
Plus personne dans les bureaux.
On nous annonçait la mort du bureau avec le télétravail, on n'aurait plus besoin de bureaux.
Exactement. Et là, Fabrice, à un moment donné, c'est impossible. Parce que, alors, tout d'abord, le télétravail ou flex office, parce qu'en fait, on ajoute les deux choses à la fois, c'est quelque chose de très important. Parce qu'on donne nos équipes aux jeunes. On donne l'opportunité de réduire les temps en transport, que c'est dur, être un heure et quelques pour aller, un heure et quelques pour rentrer chez eux. Tout ça, mais à un moment donné, il faut aussi avoir des jours ensemble, parce que les hommes et les femmes, ils ont besoin d'avoir de la socialité. En fait, on habite et on vit au bureau beaucoup plus que chez nous. C'est notre conjoint.
Et pas seulement à Paris, on a beaucoup parlé de Paris dans cette émission. Vous êtes présent sur d'autres grandes métropoles françaises. Vous nous parlez de promesses signées. Vous pouvez nous dévoiler une dernière opération là, qui va sortir?
Non, mais je vais vous dire en fait, qu'on avait acheté à Bordeaux. On croit beaucoup dans les grandes villes françaises. Je crois beaucoup dans les grandes villes. Les équipes croient beaucoup dans les grandes villes. Les investisseurs, le fonds avec lequel on travaille. Et les banquiers, ils aiment beaucoup les grandes villes françaises, dont Bordeaux, Lyon, Lille, plein d'autres. Je ne veux pas oublier des villes. Mais on a vraiment cette présence en France, comme d'ailleurs dans d'autres pays, des grandes villes qui, post-Covid, c'était déjà une démarche qu'on avait tous démarré. Hein. Mais on a eu une forte accélération après. Et donc, on voit du monde qui prend et se barre de Paris. Et parfois, je demande aux jeunes, mais vous allez où? En fait, je ne sais pas. Mais comment est-ce que tu vas survivre? Rien, je vais trouver du boulot. OK. Donc, en fait, c'est cet esprit libre des jeunes que j'aime beaucoup. C'est pour ça que chez nous, l'âge moyen, sauf moi, sauf moi et Richard, qui est le patron de l'asset management. Mais tous les autres sont 30, voire moins, voire 32, 30, 34. Donc, ils ont cette prise de... C'est une vision, parce que prise de risque, c'est dangereuse pour soi-même. Mais c'est une vision de changer les choses, de vivre dans un monde un peu plus simple.
On ne sait pas ce que ça va donner en même temps.
Ouais, hein, mais peut-être qu'ils vont revenir. Je vois avec mes enfants, avec ma fille, mon fils, qui sont 28, 26, en fait, ils me disent, mais papa, tu ne comprends pas. Mais évidemment, les parents
ne comprennent
jamais.
Et ils sont dans quel
domaine? Un, il est médecin, il est chirurgien, et l'autre, elle travaille dans, Alessandra, elle travaille dans le maquillage.
Oui.
Et donc, elle a toujours aimé ça. Et donc, elle me dit, mais c'est tout d'abord la communication, c'est tout d'abord être proche aux jeunes, c'est tout d'abord travailler avec cette envie de donner aux jeunes la liberté, work-life balance, non, je ne sais pas comment dire ça.
L'équilibre entre
le travail et la vie personnelle, bien évidemment. Est-ce que, du coup, fort de ce constat, Emmanuel Dubigny, vous changez vos méthodes de management avec cette nouvelle génération? On est obligé de s'adapter? Comment ça se passe?
Je pense que si, si, si. Il faut, alors je ne parle pas tant, c'est pas que moi. Il faut faire attention tout simplement que parfois j'ai la tendance, comme les autres, à réfléchir au fait que l'esprit de sacrifice que nous on avait quand on a démarré à travailler, c'est-à-dire tu travailles et basta. Donc tu as des problèmes, tu travailles. Et tu suives, ok. Et après, on va voir des belles choses ou pas, mais de toute façon, tu travailles. Et là, en fait, moi, parfois, j'ai cette tendance. Mais à un moment donné, c'est important de réfléchir au fait que cette qualité de vie, il faut la respecter. Et donc, il faut que chacun de nous puisse vivre sa propre vie et le boulot, donc partie de cette vie. Donc, je ne pense pas d'avoir trop changé, mais parce que, en fait, si je te donne les clés, ou je donne les clés aux équipes, ou à certains des équipes, aux seniors des équipes, c'est parce que je pense, en fait, qu'ils sont capables de faire mieux que moi dans leur demain. Et dans la forme de donner, de partager les responsabilités, etc. etc. Et donc, mais quand même, il faut toujours réfléchir à certains points. Et cette balance de vie,
équilibre.
Tout a l'air facile quand on vous écoute, mais quand il y a des beaux projets, vous n'êtes pas tout seul. Il y a des concurrents. Il y a par exemple la société Serge Weinberg Capital, où là aussi ils ont une force de frappe pour investir sur les beaux projets immobiliers. Et Fabrice va nous introduire l'un de ses responsables.
Un des partenaires, Jean-Philippe Olgiati, effectivement, qui vous connaît bien également. On l'écoute.
Jean-Philippe Olgiati, bonjour. Vous êtes en charge de toutes les activités immobilières dans le cadre de la structure Serge Weinberg Capital et vous êtes en joute régulière avec Emmanuele Dubigny. Hein. Comment vous le percevez?
Ah bah écoutez, je le perçois comme vous venez de le prononcer, c'est-à-dire Emmanuele Dubigny, c'est-à-dire un garçon avec qui je travaille depuis quelques années et avec qui j'ai du plaisir à partager aussi des moments personnels. Et donc, si je devais dire un mot qui lui ressemble, en tout cas qui me plaît chez lui, aussi bien en amitié que dans les affaires, c'est sa loyauté. Et donc, c'est une valeur que j'apprécie et qui se fait assez rare dans le marché de l'immobilier. Et c'est le premier mot qui me vient à l'esprit quand on parle d'Emmanuel.
Alors, vous parlez italien. Est-ce que c'est une langue qui vous rapproche?
Ah, tout à fait. J'ai des origines italiennes. Donc, ça nous rapproche, effectivement. Donc, ça nous permet de passer aussi de très bons moments dans les restaurants, parce que Emmanuel est un bon vivant, et donc quand on partage ces moments-là, on en profite aussi pour parler d'Italie et pour parler italien.
Vous intervenez dans un marché où les transactions sont quand même considérables, hein, il y a des enjeux. Est-ce que c'est la même approche que vous? Comment vous le voyez déployer ses talents de persuasion pour emporter les mises?
Ça, vous avez raison, effectivement. Donc, il y a beaucoup de compétition dans notre marché immobilier, beaucoup d'intérêt des investisseurs pour l'immobilier. Et ce que je peux dire, c'est qu'Emmanuel partage la culture de l'investissement qu'on peut avoir chez Weinberg Capital Partners. C'est-à-dire qu'il reste très sélectif dans un marché où il y a tellement de capital qu'on a tendance à moins l'être. Et donc, ça, c'est une culture que j'apprécie chez lui.
Et ensuite, pour ses talents de persuasion, bah, il vise sa double personnalité ou double nationalité franco-italienne. C'est-à-dire qu'il peut être aussi charmant dans l'approche que dur dans les affaires.
Et voilà, il est que technique ou il y a du plus sur ces dossiers-là?
Ah bah, technique, il faut l'être forcément, puisqu'il faut, donc il y a ce professionnalisme nécessaire au succès de ses opérations, au succès de nos opérations. Donc oui, la technique, il a. Après, derrière, on reste dans un métier humain où il faut convaincre. Voilà, moi, je crois beaucoup à ça. On veut digitaliser un peu tout. Et néanmoins, dans notre métier, le relationnel est fondamental. Et donc, avec ses qualités, son charme et son accent italien, je pense que voilà, il a parfois une longueur d'avance sur d'autres.
Merci beaucoup, Jean-Philippe Olgiati, pour votre éclairage. Merci à vous.
Il me l'a dit en préparant l'entretien et m'a parlé de vous comme quelqu'un de charismatique. On a l'impression que les joutes sont très financières, très techniques, mais à la fin, vous l'emportez souvent par ce supplément d'âme italien, charismatique. Vous vous rendez compte de ça?
Je ne sais pas. Je pense que le fait, comme Jean-Philippe vient d'évoquer, le monde de l'immobilier, c'est fait de personnes. C'est pas l'industrie, c'est pas les pneus, comme on s'est dit au début, c'est pas un cash flow. Bien sûr, c'est des flux, bien sûr, c'est de la technique, mais après, il faut convaincre, il faut avoir des bonnes idées, il faut le mettre en place, et après, il faut avoir les équipes, pas que exécutent, mais tout simplement qu'ils prennent la lead. Et donc, je trouve que cet côté, je ne sais pas si c'est du charisme ou pas, je pense que le fait de donner, mais pas abandonner, hein, parce qu'abandonner les jeunes, ce n'est pas bon, mais donner la force et de l'envie de faire, de se mettre en discussion et de leaderer un projet d'investissement, c'est quelque chose qui donne de la puissance aux jeunes. Et donc, les jeunes, ils se parlent entre eux. Et donc, les jeunes font l'équipe, l'équipe font la boîte, font la culture. Et donc, je trouve que cette côté, c'est la plus importante. Et en fait, moi, que je lidère aussi tout la côté international de la capitale, donc différents pays, c'est très important de s'adapter aux cultures. Donc un allemand, c'est très différent d'un français qui est très différent d'un basque. Donc tout ça, il faut toujours avoir du grand respect pour les personnes et pour les leaders, parce que parfois on essaye de les pousser à faire des choses différemment. Et je ne suis pas en train de dire que je ne pousse pas. Mais en fait, il faut aussi laisser faire, parce que peut-être qu'ils vont y arriver dans la même phare, mais avec un peu plus de temps. Et là, parfois, ça m'énerve, mais il faut que j'accepte, parce qu'autrement, je prends la lead. Et donc, c'est simple de dire qu'on donne la lead, mais c'est prêt, si on fait le timing, etc. Alors, on reprend la lead, mais ce n'est pas ça. Donc.
Dans ce contexte où les liquidités sont encore abondantes, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'il faut être sélectif? Voilà, quand on a tellement le choix, on peut faire plein de choses. Il y a encore la place pour le coup de cœur? Quels sont les critères qui prédominent, qui vous guident alors?
Je pense que ça dépend des différences à cette classe. Aujourd'hui, en France, comme d'ailleurs dans d'autres pays, ce n'est pas que le centre-ville qui lead les projets de l'immobilier. Bien sûr, acheter un bâtiment dans le Cousséa en France, ben Paris, c'est top. Mais est-ce que dans le futur, les quartiers des affaires vont changer, vont évoluer? On ne sait rien en fait, on a plein d'idées. Ce qu'on est plutôt certain, c'est que les grandes villes, il faut trouver de bonnes formules pour faire des investissements sélectifs, mais dans les grandes villes, ou voire juste dehors les grandes villes, soit du résidentiel, soit de parcs d'activité, soit d'autres choses. Donc, il faut vraiment, mais c'est du temps. C'est du temps parce qu'on est tous habitués à acheter des grands bâtiments pour les investisseurs, les gros volumes. À partir du moment qu'on est dehors de Paris, les grands volumes peuvent donner même de la illiquidité. C'est-à-dire que c'est compliqué de le vendre après. Donc il faut faire un peu attention tout simplement, à être sélectif dans les projets. Et je trouve que cette côté, c'est encore une fois, c'est les actionnaires qui te donnent... l'envie de faire, pas trop de pression. C'est toi-même qui te mets la pression, mais c'est important de jamais oublier que dans l'immobilier, on peut vraiment être conduite par la rapidité des opérations. Il faut l'avoir, mais il faut aussi faire un step back parfois et bien regarder les lieux où on fait l'investissement, parce qu'on n'a jamais envie, parce que les crises, on les prend. Mm-hmm. Et on peut l'appeler une crise, on peut l'appeler de la, une des microbes, donc le Covid, on peut l'appeler...
Subprime.
Okay, là, c'est une guerre. C'est pas chez nous, mais quand même, on est très proche, hein, parce que je leader aussi la Pologne. Et les équipes polonaises, ils ont peur, parce qu'ils voient, en fait, dans leurs grands-parents et parents, tous les problèmes qu'ils ont eus pendant la guerre. Donc, cette peur. Et donc, en fait, il faut s'engager avec eux, il faut leur donner de la stabilité, de la tranquillité, même dans des moments compliqués. Très important. Autrement, on ne va pas obtenir le mieux de chacun de nous.
Merci Emmanuel Dubigny, c'est un grand patron qu'on a reçu ce matin.
Grazie mille.
On récapitule, hein, polyglotte, plusieurs cultures, très à l'aise, épicurien également, on l'a bien compris, la bonne table, il connaît, grand professionnel qui a le sens également des équipes. C'était un plaisir de vous avoir ce matin, de découvrir votre portrait. On va se quitter sur quelques notes de musique et on aura plaisir à vous retrouver sur Radio Imo. Merci Emmanuel Dubigny. Très bonne journée.
Merci beaucoup.
Bonne
ciao.
Bonne journée Fabienne.
À tout le
merci
monde.
À vous, hein.
David qui a réalisé, David Payon qui a réalisé cette émission. Et à très bientôt. On vous souhaite une excellente journée à tous. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schierisse la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. Scioglie il sangue dentro da una sala. Vide le luci in mezzo al mare, pensò le notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un nero. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. È una catena ormai e scioglie il sangue di me. Della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fa scordare le parole.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h, à retrouver en podcast sur radio.imo et toutes les plateformes de streaming.